Chapitre 6. Ce matin, les Patagons, qui toute la nuit avaient entretenu des feux au fond de la baie de Possession, élevèrent un pavillon blanc sur une hauteur, et nous répondîmes en hissant celui des vaisseaux. Ces Patagons étaient sans doute ceux que l'Étoile vit au mois de juin 1766 dans la baie Bouco, et le pavillon qu'ils élevaient était celui qui leur fut donné par M. Denis de Saint-Simon en signe d'alliance. Le soin qu'ils ont pris de le conserver annonce des hommes doux, fidèles à leurs paroles, ou du moins reconnaissants des présents qu'on leur a faits. Nous aperçûmes aussi fort distinctement, lorsque nous fûmes dans le goulet, une vingtaine d'hommes sur la terre de feu. Ils étaient couverts de peau et couraient à toutes jambes le long de la côte en suivant notre route. Ils paraissaient même de temps en temps nous faire des signes avec la main, comme s'ils eussent désiré que nous allassions à eux. Selon le rapport des Espagnols, la nation qui habite cette partie des terres de feu n'a rien des mœurs cruelles de la plupart des sauvages. Ils accueillirent avec beaucoup d'humanité l'équipage du vaisseau La Conception qui se perdit sur leur côte en 1765. Ils lui aidèrent même à sauver une partie des marchandises de la cargaison et à élever des hangars pour les mettre à l'abri. Les Espagnols y construisirent des débris de leur navire, une barque dans laquelle ils se sont rendus à Buenos Aires. C'est à ces Indiens que le chambéquin Landalou se disposait à mener des missionnaires lorsque nous sommes sortis de la rivière de la Plata. Au reste, des pains de cire provenant de la cargaison de ce navire ont été portés par les courants jusque sur la côte des Malouines, où on les trouva en 1766. On a vu qu'à midi nous étions sortis du premier goulet. Pour lors, nous fîmes de la voile. Le vent s'était rangé au sud, et la marée continuait à nous élever dans l'ouest. À 3 heures, l'un et l'autre nous manquèrent, et nous mouillâmes dans la baie Bouco sur 18 brasses fond de vase. Dès que nous fûmes mouillés, je fis mettre à la mer un de mes canots et un de l'Étoile. Nous nous y embarquâmes au nombre de 10 officiers armés chacun de nos fusils, et nous allâmes descendre au fond de la baie avec la précaution de faire tenir nos canots à flot et les équipages dedans. À peine avions-nous pied à terre que nous vîmes venir à nous 6 Américains à cheval et au grand galop. Ils descendirent de cheval à 50 pas, et sur le champ accoururent au-devant de nous en criant « Chawa ». En nous joignant, ils tendaient les mains et les appuyaient contre les nôtres. Ils nous serraient ensuite entre leurs bras, répétant à tue-tête « Chawa, Chawa !» que nous répétions comme eux. Ces bonnes gens parurent très joyeux de notre arrivée. Deux des leurs, qui tremblaient en venant à nous, ne furent pas longtemps sans se rassurer. Après beaucoup de caresses réciproques, nous fîmes apporter de nos canots des galettes et un peu de pain frais que nous leur distribuâmes et qu'ils mangèrent avec avidité. À chaque instant, leur nombre augmentait. Bientôt, il s'en ramassa 30, parmi lesquels il y avait quelques jeunes gens et un enfant de 8 à 10 ans. Tous vinrent à nous avec confiance et nous firent les mêmes caresses que les premiers. Ils ne paraissaient point étonnés de nous voir, et, en imitant avec la voix le bruit de nos fusils, ils nous faisaient entendre que ces armes leur étaient connues. Il paraissait attentif à faire ce qui pouvait nous plaire. Monsieur de Commerçon et quelques-uns de nos messieurs s'occupaient à ramasser des plantes. Plusieurs Patagons se mirent aussi à en chercher, et ils apportaient les espèces qu'ils nous voyaient prendre. L'un d'eux, apercevant le chevalier du bouchage dans cette occupation, lui vint montrer un œil auquel il avait un mal fort apparent, et lui demandait par signe de lui indiquer une plante qui le pût guérir. Ils ont donc une idée et un usage de cette médecine qui connaît les simples, et les applique à la guérison des hommes. C'était celle de Macaon, le médecin des dieux, et on trouverait plusieurs Macaons chez les sauvages du Canada. Nous échangeâmes quelques bagatelles précieuses à leurs yeux contre des pots de ganac et de vigogne. Ils nous demandèrent par signe du tabac à fumer, et le rouge semblait les charmer. Aussitôt qu'ils apercevaient sur nous quelque chose de cette couleur, ils venaient passer la main dessus et témoignaient en avoir grande envie. Au reste, à chaque chose qu'on leur donnait, à chaque caresse qu'on leur faisait, le chawa recommençait. C'était des cris à étourdir. On s'avisa de leur faire boire de l'eau-de-vie, en ne leur laissant prendre qu'une gorgée à chacun. Dès qu'ils l'avaient avalée, ils se frappaient avec la main sur la gorge et poussaient en soufflant un son tremblant et inarticulé, qu'ils terminaient par un roulement avec les lèvres. Tous firent la même cérémonie, qui nous donna un spectacle assez bizarre. Cependant, le soleil s'approchait de son couchant, et il était temps de songer à retourner à bord. Dès qu'ils virent que nous nous disposions, ils en parurent fâchés. Ils nous faisaient signe d'attendre et qu'il allait encore venir des leurs. Nous leur fîmes entendre que nous reviendrions le lendemain et nous leur apporterions ce qu'ils désiraient. Il nous sembla qu'ils eussent mieux aimé que nous couchassions à terre. Lorsqu'ils virent que nous partions, ils nous accompagnèrent au bord de la mer. Un patagon chantait pendant cette marche. Quelques-uns se mirent dans l'eau jusqu'aux genoux pour nous suivre plus longtemps. Arrivés à nos canots, il fallait avoir l'œil à tout. Ils saisissaient tout ce qui leur tombait sous la main. Un d'eux s'était emparé d'une faucille. On s'en aperçut et il la rendit sans résistance. Avant que de nous éloigner, nous vîmes encore grossir leurs troupes par d'autres qui arrivaient incessamment à toute bride. Nous ne manquâmes pas, en nous séparant, d'entonner un chawa dont toute la côte retentit. Les Américains sont les mêmes que ceux vus par l'étoile en 1766. Un de nos matelots, qui était alors sur cette flûte, en a reconnu un qu'il avait vu dans le premier voyage. Ces hommes sont d'une belle taille. Parmi ceux que nous avons vus, aucun n'était au-dessous de 5 pieds 5 à 6 pouces, ni au-dessus de 5 pieds 9 à 10 pouces. Les gens de l'étoile en avaient vu dans le précédent voyage plusieurs de 6 pieds. Ce qui m'a paru être gigantesque en eux, c'est leur énorme carrure, la grosseur de leur tête et l'épaisseur de leurs membres. Ils sont robustes et bien nourris, leurs nerfs sont tendus, leur chair est ferme et soutenue. C'est l'homme qui, livré à la nature et à un aliment plein de suc, a pris tout l'accroissement dont il est susceptible. Leur figure n'est ni dure ni désagréable, plusieurs l'ont jolie, leur visage est rond et un peu plat, leurs yeux sont vifs, leurs dents extrêmement blanches n'auraient pour pari que le défaut d'être larges. Ils portent de longs cheveux noirs attachés sur le sommet de la tête. J'en ai vu qui avaient sous le nez des moustaches plus longues que fournies. Leur couleur est bronzée, comme l'est sans exception celle de tous les Américains, tant de ceux qui habitent la zone torride que de ceux qui y naissent dans les zones tempérées et glaciales. Quelques-uns les jouent peintes en rouge. Il nous a paru que leur langue était douce, et rien n'annonce en eux un caractère féroce. Nous n'avons point vu leurs femmes. Peut-être allaient-elles venir, car ils voulaient toujours que nous attendissions, et ils avaient fait partir un des leurs du côté d'un grand feu, auprès duquel paraissait être leur camp à une lieue de l'endroit où nous étions, nous montrant qu'il en allait arriver quelqu'un. L'habillement de ces patagons est le même, à peu près, que celui des Indiens de la rivière de la Plata. C'est un simple braquet de cuir qui leur couvre les parties naturelles et un grand manteau de peau de guanaque attaché autour du corps avec une ceinture. Il descend jusqu'au talon et il laisse communément retomber en arrière la partie faite pour couvrir les épaules, de sorte que, malgré la rigueur du climat, ils sont presque toujours nus de la ceinture en haut. L'habitude les a sans doute rendus insensibles au froid, car quoique nous fussions ici en été, le thermomètre de Réaumur n'y avait encore monté qu'un seul jour à 10 degrés au-dessus de la congélation. Ils ont des espèces de bottines de cuir de cheval ouvertes par derrière, et deux ou trois avaient autour du jarret un cercle de cuivre d'environ 2 pouces de largeur. Quelques-uns de nos messieurs ont aussi remarqué que deux des plus jeunes avaient de ces grains de rassade dont on fait les colliers. Les seules armes que nous leur ayons vues sont deux cailloux ronds attachés aux deux bouts d'un boyau coordonné, semblables à ceux dont on se sert dans toute cette partie de l'Amérique et que nous avons décrit plus haut. Ils avaient aussi des petits couteaux de fer dont la lame était épaisse d'1,5 pouce à 2 pouces. Ces couteaux de fabrique anglaise leur avaient vraisemblablement été donnés par M. Byron. Leurs chevaux, petits et fort maigres, étaient sellés et bridés à la manière des habitants de la rivière de la Plata. Un patagon avait à sa selle des clous dorés, des étriers de bois recouverts d'une lame de cuivre, une bride en cuir tressée, enfin tout un harnais espagnol. Leur nourriture principale paraît être la moelle et la chair des guanaques et des vigognes. Plusieurs en avaient des quartiers attachés sur leurs chevaux, et nous leur en avons vu manger des morceaux crus. Ils avaient aussi avec eux des chiens petits et vilains, lesquels, ainsi que leurs chevaux, boivent de l'eau de mer. L'eau douce étant fort rare sur cette côte et même sur le terrain. Aucun d'eux ne paraissait avoir de supériorité sur les autres. Ils ne témoignaient même aucune espèce de déférence pour 2 ou 3 vieillards qui étaient dans cette bande. Il est très remarquable que plusieurs nous ont dit les mots espagnols suivants. Manana, muchacho, bueno, chico, capitán. Je crois que cette nation mène la même vie que les Tartares, errant dans les plaines immenses de l'Amérique méridionale, sans cesse à cheval, hommes, femmes et enfants, suivant le gibier ou les bestiaux dont ces plaines sont couvertes, se vêtant et se cabanant avec des peaux, ils ont encore vraisemblablement avec les Tartares cette ressemblance qu'ils vont piller les caravanes des voyageurs. Je terminerai cet article en disant que nous avons depuis trouvé dans la mer Pacifique une nation d'une taille plus élevée que ne l'est celle des Patagons.